Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Un mur entre Paris et sa banlieue, on ne peut pas nier que le symbole est fort. Un rassemblement était prévu en fin de journée, non loin du mur de la honte, comme certains riverains l'ont surnommé. Un mur donc qui a été édifié en fin de semaine dernière entre donc Paris, la capitale française, et Pantin, pour empêcher les consommateurs de crack de passer. C'est la dernière initiative des autorités qui peinent à trouver une solution face à plusieurs dizaines de toxicomanes régulièrement déplacés d'un lieu à l'autre du nord de Paris. Pourquoi tant d'impuissance? Est-ce à cause des clivages idéologiques qui sont forts sur cette question? Faut-il accompagner ou faut-il réprimer? Quel modèle à l'étranger? Ce sont nos questions ce soir dans le débat du jour. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à nos questions, nos trois invités, à nos côtés en studio d'abord, Marie Geoffrey Roustide, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM, coordinatrice à l'EHESS, qui est l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous êtes coordinatrice du programme Sciences Sociales, Drogue et Société. Face à vous, en studio, Anne Souiris, bonsoir.
Bonsoir.
Adjointe à la maire de Paris, chargée de toutes les questions relatives à la santé et aux relations avec l'APHP, l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Et en ligne avec nous ce soir, le professeur Florence Vorspan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'addictologie à l'Université de Paris, médecin hospitalier dans le département de psychiatrie et de médecine addictologique de l'hôpital Fernand Vidal. Toujours à Paris. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. D'abord, avec vous, Anne Souiris, j'aimerais qu'on identifie le phénomène pour nos auditeurs, pour bien comprendre qui sont ces toxicomanes, où se trouvent-ils, que consomment-ils, quelle situation aujourd'hui ?
Alors, la situation à Paris qu'on voit, que c'est transféré de Riquet au passage Forceval sur les bords de Paris.
Alors ça, c'est nord-est de Paris,
le
pour
nord-est,
situer.
Exactement, le nord-est de Paris. Ce sont à peu près 130 personnes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 130 usagers de crack à Paris. Ça veut dire qu'il y a 130 personnes qui sont des grands SDF, parce que c'est la réalité, ce sont d'abord des gens très précarisés, très désocialisés, qui sont souvent même sans papier, pas au sens de gens qui viennent d'autres pays ou qui sont étrangers, mais au sens sans papier de sociaux, sanitaires, qui permettent d'être soignés, suivis et considérés comme n'importe quel citoyen. Donc c'est ça cette situation-là. C'est d'abord une grande désinsertion, une grande précarité et un peu plus d'une centaine de personnes.
Et des gens qui vivent donc dans des campements de fortune, c'est ça, dont les campements sont régulièrement déplacés.
Qui vivent soit dehors, qui vivent soit chez les uns, chez les autres, soit parfois avec un hébergement, parce qu'on a favorisé l'hébergement accompagné socialement. Donc parfois, ils vont dormir quelques heures dans un hébergement et ils reviennent sur place. Mais en tout cas, ce sont des gens qui, au moment où ils en sont dans leur vie, n'ont pas d'autre objectif que d'avoir de la drogue et du crack en l'occurrence. Donc nous, notre objectif en tant que pouvoir public, c'est de dire comment faire en sorte de mettre le pied à l'étrier d'un premier soin. Comment faire en sorte d'accompagner ces gens là où ils n'ont pas envie d'aller, c'est-à-dire vers le soin. On n'a pas de demande de leur part. Il faut bien comprendre ça. On n'a pas de demande directe de leur part. En tout cas, à mon niveau, c'est ce que je vois. Et c'est bien la question. Quand on nous dit qu'il faut des centres de sevrage fermés, on ne peut pas emmener de force des gens. Il faut qu'il y ait une demande. C'est ça qui est important à favoriser.
Et évidemment, on va soulever toutes ces problématiques au cours de ces débats. Professeur Florence Vorspan, pour bien comprendre ce à quoi on a affaire, vous qui êtes professeur d'addictologie à l'Université de Paris, on a affaire au crack. C'est ce phénomène qui existe depuis des dizaines d'années, mais qui s'est intensifié à Paris ces dernières années.
Alors, qui a toujours été présent ces dernières années, avec des moments où c'est plus ou moins visible. Encore une fois, il s'agit de ces quelques centaines de personnes, mais qui sont un peu la pointe émergée d'un iceberg de diffusion de la dépendance à d'autres formes de cocaïne, à d'autres psychostimulants qui se répandent dans la société. Donc nous, comme addictologues, dans les services hospitaliers et dans les centres de soins ambulatoires, on reçoit plusieurs centaines de personnes qui ont des problèmes avec la cocaïne et qui ne sont pas tous aussi désinsérés. Évidemment, c'est plus facile de proposer des soins avec des médicaments éventuellement des hospitalisations de sevrage ou des consultations pour maintenir l'arrêt de la consommation à des personnes qui ont encore un peu de soutien familial.
Mais pour bien comprendre, encore une fois, là d'abord, je souhaiterais vraiment faire le tour de la question avant d'entrer dans le détail de quoi faire. On a affaire à cette drogue qui est le crack, qui est surnommée la drogue du pauvre. C'est le principal phénomène auquel les pouvoirs sont confrontés. Quelle est la spécificité de cette drogue? En quoi est-ce que c'est un défi nouveau? C'est donc qualifié drogue du pauvre. C'est un dérivé de la cocaïne.
Absolument. Donc c'est la particularité de ce produit, c'est que c'est un produit qui est le plus souvent fumé ou injecté, donc qui donne un effet extrêmement rapide et très bref, et donc qui est très addictif. Et les patients qui sont dépendants du crack, mais encore une fois, comme des patients qui seraient dépendants de la méthamphétamine injectée ou d'autres produits d'action très rapide, ont un effet très violent, donc très psychostimulant, avec des symptômes psychotiques, donc un côté délirant ou désorganisé dans leur comportement ou potentiellement violent, qui est très bref. Et recherche à nouveau cet effet stimulant au bout de quelques heures. Donc, ce sont des patients qui consomment un peu sans discontinuer.
Et on considère qu'il y a environ 13 000, ce sont les chiffres, hein, 13 000 usagers de crack, ce nombre qui est en hausse, hein, en Ile-de-France, un tiers, et ça rejoint ce que vous disiez, Anne Souris, au début de votre intervention, un tiers sont des sans domicile. Marie-Geoffrey Roustide, est-ce que c'est un nouveau défi, ce développement, cette intensification du crack, posé au pouvoir public?
Alors en fait, la question du crack, elle est apparue dès les années 80 en France, donc principalement à Paris et dans les Antilles au départ. Mais depuis les 10 dernières années, la population a été multipliée, enfin les consommateurs de crack ont été multipliés par 3. Donc vous parliez des chiffres en Ile-de-France, c'est 13 000. Au niveau de la France, l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, estime à 44 000.
Donc, on parle beaucoup depuis plusieurs semaines du problème parisien, du problème francilien. Ce n'est pas qu'un problème parisien, un problème francilien.
Depuis quelques années, le problème du crack en fait se diffuse à d'autres villes. J'ai été contactée par exemple hier par une riveraine de Bordeaux qui faisait part en fait du fait qu'ils sont confrontés de plus en plus à des scènes ouvertes également d'usagers de crack. À Lille également, nous faisons des études à Lille. Donc en fait, c'est un phénomène qui se diffuse depuis quelques années. Mais c'est vrai que des années 80 aux années 2000, il a été exclusivement aux Antilles et dans le nord-est parisien. Alors, il y a le crack dont on parle beaucoup.
Ça soulève des problèmes nouveaux, pardon, je vous coupe, hein, mais ça soulève des problèmes nouveaux par rapport aux autres consommations de drogue, parce qu'évidemment, ce soir, on parle des problèmes qui sont soulevés par cette consommation de drogue et particulièrement de crack.
Alors, les problèmes qui ne sont pas nouveaux, mais c'est essentiellement la question de la précarité sociale, en fait, hein, comme l'évoquait Anne Swiris tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a les effets du crack qui sont très puissants, mais l'héroïne est aussi un effet, est un produit aussi qui a des effets puissants. Alors, moins bref, c'est effectivement une des différences. Donc, avec moins de répétition dans la consommation, on dit que c'est la drogue du pauvre, mais au bout du compte, c'est une drogue qui coûte très cher à cause de la répétition des prises. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, il y a une paupérisation. Ce qui est important aussi, c'est la question des troubles psychiatriques dont pourra parler Florence Vorspan. Mais nous, dans le cadre d'une recherche que nous avons faite avec l'OFDT en mars là, 2021, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que tous les usagers avec lesquels nous avons fait des entretiens avaient des trajectoires de vie avec des traumatismes extrêmement importants. Et donc, pour une partie d'entre eux, la consommation de crack est un moyen d'oublier un peu ces vies, et d'ailleurs beaucoup d'ailleurs, de ces vies difficiles. Et l'autre élément, c'est le fait que ces consommateurs de crack vivent pour entre un tiers, voire la moitié d'entre eux, dans l'espace public. Vivre dans l'espace public amène à consommer plus. Parce qu'il faut supporter la dureté de la vie à la rue.
Alors, on ne va pas faire le panorama de ces usagers. Évidemment, la question est plutôt de savoir que faire face à cette situation. Mais Florence Vorspan, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je voulais réagir sur le côté, comment dire, il n'y a pas de différence de nature entre un consommateur de crack qui fume 10 fois par jour du crack et un consommateur bien inséré qui va s'injecter de la méthamphétamine à son domicile qu'il fait livrer par un livreur qu'il a contacté par Internet. Donc la dépendance est la même, la dépendance est aussi sévère, il y a autant de complications médicales, qu'elles soient cardiaques, qu'elles soient psychiatriques, sauf que dans l'environnement de la rue,
voilà.
Tout est amplifié, tout est visible.
Alors, c'est la question que j'aurais posée à Anne Souris, justement. Quel problème ça soulève, cette consommation de crack observée à Paris?
Le problème majeur, c'est effectivement le fait qu'il y a un espace public qui est occupé, alors, et qui change d'année en année. Vous dites que ça fait 30 ans que ça dure, même 40 ans en réalité. On a vu que depuis 40 ans, ces scènes bougent, toujours dans le nord-est parisien, hein, quand même. Ça reste circonstancié
à ce nord-est. Pardon, mais parce que les politiques publiques aussi ont déplacé régulièrement ces usagers de drogue dans le nord-est parisien, de Lyon-Lieu.
Parce que, en fait, en général, là maintenant, j'allais dire qu'il y a un certain cynisme du préfet qui fait qu'il les transporte d'un endroit précis à un autre par bus. Ce n'était pas le cas des derniers. Enfin, il y a encore 10 ans, c'était plutôt on évacue, les gens se disséminent et vont dans un endroit qui n'est pas très loin. Et se déplace un peu dans le nord-est parisien. C'était choisi, entre guillemets, en tout cas, par défaut, certainement, par les personnes. Et c'était toujours quand même, ça restait dans ce nord-est parisien. Non pas parce que les pouvoirs publics ont intérêt de les laisser là. Moi, ça, j'y crois absolument pas du tout. Je crois qu'il y a aussi une question de trafic, de là où arrive le produit, à la gare du Nord, qu'on a tout le circuit à la fois du RERB qui remonte sur le 93, parce qu'il y a vraiment toute une... À un moment donné, c'est un bassin. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on travaille Paris avec la Seine-Saint-Denis, parce qu'on essaye de voir comment on peut créer un réseau qui dépasse la frontière. Ça ne veut pas dire reporter nos usagers, ça veut dire travailler sur sur ces gens qui parfois viennent de Seine-Saint-Denis ou qui sont là et donc sur lesquels il faut travailler de manière coordonnée, ce qui est très important, le contraire de ce que fait le préfet. Alors, en ça, les ramenant
pardon,
vers
mais c'est intéressant parce que ça fait deux fois que vous citez le préfet, vous êtes adjointe à la maire de Paris, clairement il y a un bras de fer, une guerre sur ce sujet-là entre autorités publiques.
Vous savez, je crois que nous sommes les premiers à avoir mis en place un plan crack il y a quelques années.
Où on a mis en
commun justement nos forces avec l'Agence régionale de santé, le préfet de police, le préfet d'Île-de-France, les acteurs de santé. Donc on a vraiment tenté au contraire de faire une alliance locale du pouvoir local et du pouvoir national pour répondre et les acteurs de terrain pour répondre à cette question. On a fait un plan crack qui, d'ailleurs, pour une part, a porté ses fruits en termes d'émargement accompagné, en termes de maraude sociale, en termes de début de prise en charge. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il manque un premier échelon, la question de la consommation accompagnée.
Je rebondis sur les tensions avec les, parce que c'est intéressant.
Oui,
est-ce que justement ce sujet n'est pas l'otage de ces tensions, de ces différences de points de vue qui sont évidentes, qui sont peut-être politiques d'ailleurs, en tout cas idéologiques, entre justement le préfet et la mairie.
Vous savez, c'est.
Et est-ce que du coup ça entraîne une paralysie de ce sujet-là?
Je crois que c'est inverser le problème. Après qu'il y ait des gens qui se servent de manière politicienne de ces sujets, c'est absolument sûr. Mais en revanche, il y a une question fondamentale depuis la loi de 70, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une loi en France qui est très répressive, qui est une des plus répressives d'Europe. Et quand la réduction des risques est arrivée dans les années 90 avec la lutte contre le sida, eh bien, elle s'est agrippée dessus. Elle est en contradiction en réalité, c'est une espèce d'exception dans la loi de 70, qui fait qu'il reste tout le temps une contradiction juridique et légale en permanence, et du coup dans l'esprit, y compris du législateur. Vous savez, quand les premières salles de consommation ont été mises sur pied en 2016, il y avait vraiment l'idée
celle qu'on surnomme les salles de shoot.
À moindre risque, moi je ne l'appellerais pas.
Bien sûr, mais c'est pour que nos auditeurs comprennent.
Les salles de shoot, c'est vraiment l'idée qu'on a l'impression qu'on va aller faire la teuf dans ces salles de consommation à moindre risque, qui sont des salles de soins. Enfin, je veux dire, donc c'est pour ça que c'est vraiment inapproprié de les appeler comme ça. C'est pas seulement une question comme ça de sémantique absurde. Donc, quand il y a eu 2016, cette loi qui a permis de faire l'expérimentation pour 6 ans, eh bien, le législateur a voulu vraiment séparer la salle de consommation du soin. Et c'est pour ça que, par exemple, les CARU, les centres d'accueil ne pouvaient pas héberger, enfin avoir la même entrée que la salle de consommation, comme si c'était déjà encore dans l'esprit du législateur comme une incitation. Mmh, et c'est, oui. C'est ça qu'il faut tordre, c'est comme fausse idée. Je crois qu'il y a quelque chose à travailler sur ce sujet-là, qui est de dire c'est les espaces de consommation, les salles de consommation à moindre risque et supervisées et médicalisées telles que l'ont fait les Suisses et les Allemands et beaucoup de nos voisins européens, c'est vraiment une résolution et sanitaire et de tranquillité publique. Il faut vraiment se le dire. Et c'est un début de soin. Ce n'est pas quelque chose d'à part. Mmh. Et puis, on les laisse faire. Et ensuite, de l'autre, s'ils sont d'accord plus tard, un jour, ils se soignent. Non, on les soigne déjà.
Et les salles de consommation à moindre risque, il y en a deux en France.
Absolument.
Pour le moment.
Et qu'une à Paris.
Une à Strasbourg, et le gouvernement vient de donner son feu vert pour 4 nouveaux lieux d'accueil. Et effectivement, vous citiez l'étranger, à titre de comparaison, la première salle de consommation à moindre risque a été ouverte en
1986
en Suisse. Professeur Florence Vorspan, notre réalisateur me dit que vous souhaitez réagir sur l'action des autorités publiques.
Alors, pas directement sur l'action des autorités publiques, mais en tout cas, ce qu'on voit du côté du soin avec inquiétude, c'est l'impression que certains partis pourraient être pour la réduction des risques et que d'autres partis seraient pour l'augmentation de l'offre de soins. Et pour nous, ce qu'on voit sur le territoire du Nord-Est parisien, c'est vraiment une chaîne qui va d'acteurs de réduction du risque qui vont chercher des patients dans la rue avec des systèmes de maraude, qui les incitent à aller consommer dans des salles de consommation à moindre risque, qui leur présentent à ce moment-là l'offre de soins. Ensuite, ils viennent chez nous en sevrage hospitalier. Et donc, oui, si quelqu'un dit demain qu'on va augmenter l'offre de soins pour accueillir plus facilement ces patients avec des délais d'attente qui sont moindres pour accéder à un sevrage hospitalier, évidemment, moi je serai pour et l'ensemble des acteurs du soin seront pour. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, puisque les patients qui viennent dans les soins, ils ne viennent pas spontanément, ils viennent parce qu'ils ont été approchés par des systèmes de réduction des risques. Et si demain d'autres types de structures se montent avec des hébergements, avec des lits infirmiers dans lesquels des acteurs plutôt du médico-social accueilleront ces patients-là. En tout cas, nous avons des partenariats avec ces structures pour aller donner des avis médicaux dans ces structures qui seront un peu plus basse-œil. Et ce dont on a besoin aussi dans cette chaîne du soin, c'est aussi des soins de suite. Et on a bien vu dans l'épidémie de Covid qu'on a été en mesure de faire participer des structures privées, des structures publiques, de pousser les murs pour accueillir les patients quand on en avait besoin. Là, on n'est pas face à une épidémie très ponctuelle, on est face à plusieurs années qui vont solliciter beaucoup le système de soins addictologiques. Et je pense qu'on aura besoin de l'aide de tout le monde et de mettre effectivement les ARS, le médico-social, l'hospitalier et les soins de suite et l'hébergement et la tranquillité publique et la préfecture, etc., autour d'une table pour construire cette chaîne du soin qui soit complète et qui soit plus élargie et plus accessible pour ces patients.
Et d'ailleurs, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a dit qu'il réfléchit à une solution pérenne. Il y a parmi les pistes l'idée, effectivement, que plusieurs ministères, et on entend surtout le ministère de l'Intérieur sur ce sujet, plusieurs ministères, mais également l'Intérieur, la Santé, la Justice, travaillent ensemble. Alors, c'est intéressant, cette concertation des acteurs, Marie-Geoffrey Roustide, on parle des salles de consommation à moindre risque. Il faut qu'il y ait un suivi autour pour qu'elles soient efficaces. C'est ce que vous pensez
alors,
également?
Enfin, nous, en tout cas, dans le rapport que nous avons fait avec l'OFDT cette année, nous avons interrogé donc à la fois des usagers de crack et des professionnels de réduction des risques. Et chez les usagers de crack que nous avons interrogés, il y avait une demande d'arrêt, alors qui n'était pas obligatoirement élaborée en sevrage systématiquement, mais l'envie vraiment de changer de vie, de faire des pauses et de pouvoir mettre le produit à distance. Et c'est vrai que, enfin, nous, en tout cas, dans les études scientifiques, ce qui est prouvé, c'est que, par exemple, quand les usagers fréquentent une salle de consommation à moindre risque, ils vont augmenter de 30% leur chance d'aller ensuite vers le soin ou vers le sevrage. C'est ce qui a été mis en évidence pour la salle, par exemple, de Vancouver. Le problème qui se pose en France, vous parliez tout à l'heure de l'opposition au niveau national, mais cette opposition, elle est surtout... l'opposition au niveau local, cette opposition, elle est surtout au niveau national. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur aujourd'hui a choisi une réponse politique qui est celle de la répression de l'usage, alors que cette réponse, elle va complètement à l'encontre des choix qui sont faits actuellement à l'international.
La drogue ne doit pas être accompagnée, mais combattue, a dit Gérald Darmanin,
alors,
ministre de l'Intérieur.
Que la drogue soit combattue, donc il y a eu ce premier niveau de discours, mais en fait, il y a eu aussi un discours chez Gérald Darmanin, et ça, c'est complètement nouveau, sur le fait de combattre également les usagers. Avant, le discours répressif était centré plutôt sur les trafiquants, les dealers. Là, dans ses dernières déclarations, Gérald Darmanin a présenté les consommateurs comme étant responsables du trafic. Et donc, en fait, il a une politique, effectivement, qui n'a jamais été aussi répressive. Et ce qu'on voit à l'étranger, c'est un mouvement qui va complètement dans l'autre sens. Vous avez l'exemple du Portugal, par exemple, qui a été évalué par l'Observatoire européen des drogues très récemment. Le Portugal a choisi en 2001 de décriminaliser l'usage de toutes les drogues. C'est-à-dire qu'au Portugal aujourd'hui, quand vous êtes l'objet d'un contrôle et que vous avez du produit sur vous, un produit stupéfiant sur vous, vous allez passer devant une commission qui s'appelle une commission de dissuasion de la toxicomanie, où vous allez voir un juge, donc une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, juges, également d'assistants sociaux, qui vont évaluer si votre situation nécessite des soins, si vous consommez de manière régulée et que vous n'avez pas de problème particulier, ou si vous avez une quantité qui fait que vous passez du côté du trafic. Et en fait, cette option qui a été choisie par le Portugal fait qu'aujourd'hui, le Portugal a le taux de mortalité chez les usagers de drogue le plus bas d'Europe, alors que dans les années 80-90, c'est exactement l'inverse. Ils avaient un taux de mortalité très élevé, avec des scènes ouvertes également très importantes. Et quand on regarde un autre produit, par exemple, qui est le cannabis, le Portugal a un niveau de consommation du cannabis 4 fois inférieur à celui de la France. Donc, contrairement à ce qu'on imagine, décriminaliser l'usage de toutes les drogues ne fait pas augmenter la consommation.
Anne Souris, est-ce que la mairie de Paris va s'inspirer du modèle portugais ?
Alors, nous, on n'a pas le pouvoir de changer les lois. Hein, donc, on ne peut pas, en tout cas, faire ce qu'a fait le Portugal. En revanche...
En tout cas, sur l'ouverture à plusieurs acteurs.
Faire le choix de la santé et le fait de soigner les gens pour comme entrer dans cette question de toxicomanie et de voir comment la santé peut permettre de résoudre des problèmes, y compris de sécurité publique, et non pas de se dire il faut avoir un peu de carotte, un peu de bâton, parce que en fait, en faisant un peu des deux, on va y arriver. En réalité, le bâton ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que c'était le retour de bâton depuis à peu près un an, c'était ça. C'est-à-dire c'était de dire injonction thérapeutique majeure, interdiction de paraître.
Alors, l'injonction thérapeutique, elle peut exister quand il y a une mise en danger de la vie d'autrui.
Oui, mais enfin là,
ça peut être le cas pour des riverains.
En l'occurrence, c'est pas ce qui se passe du tout. L'injonction thérapeutique, c'est dès que on voit quelqu'un, quelqu'un est arrêté avec une drogue illicite sur lui, il peut être en injonction thérapeutique immédiatement, que quelle que soit la consommation, la quantité, la réalité de sa consommation. Et puis l'arrêté de paraître, qui est le truc le plus absurde quand même de notre système, c'est-à-dire de se dire que ils n'ont pas le droit d'être, certaines personnes n'ont pas le droit d'être à la chapelle ou pas le droit d'être à Stalingrad, et qui va les vérifier ça? Personne. Donc ça met juste les gens dans une situation de clandestinité supplémentaire, point. Donc et sur lesquels évidemment ils s'assoient complètement, ils restent là. De toute façon, c'est des gens qui sont sans domicile, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? De ce côté-là, en tout cas, rien. Donc, vous voyez, si vous voulez, ces réponses, elles sont vaines, elles sont illusoires. Donc, oui, nous, on fait le choix de la santé, en disant le choix de la santé résout le problème, quand même, des personnes, elles-mêmes.
Donc, vous misez sur les salles de consommation à moindre risque.
De la consommation comme premier pied. Vous voyez, c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure par les deux intervenantes, c'est-à-dire que c'est un premier pied vers le soin. On ne peut pas séparer le soin de ces salles de consommation. C'est là où peut-être on peut se rapprocher du Portugal, c'est de dire, nous, on veut un aménagement de la loi, en tout cas pour Paris, et arriver à faire déjà un parcours, à commencer à organiser ce parcours de points sans rupture.
Il ne faut pas sevrer pour soigner, c'est votre idée. À l'encontre, par exemple, de ce qu'on propose Valérie Pécresse, après on va
sevrer, ça peut être une...
Valérie Pécresse, par exemple, qui propose un centre de désintoxication.
Oui, mais elle est dans un truc d'injonction où on met tout le monde dans le centre d'intoxication. Ça n'existe pas. L'objectif, là, c'est de dire, si on va au sevrage, on peut, et surtout, les personnes, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui ont envie d'y aller. Et en plus, c'est mieux pour elles, vu la situation dans laquelle elles sont. Donc, oui, mais c'est absurde de dire que ça doit être la démarche première. La démarche première, ça doit être déjà de faire rentrer dans une volonté, dans quelque chose où les gens se rendent compte qu'il y a une issue à la situation dans laquelle ils sont. Et souvent, cette issue n'est pas visible pour eux. Voilà. Et donc, c'est de se dire, on part de la réalité et pas d'une injonction. C'est bien, c'est mal. Et donc, à partir de là, ils vont s'en rendre compte et ils vont y aller tout seuls. Mais non, c'est tout à l'heure. Et l'idée, par exemple, des maraudes, effectivement, c'était extrêmement important dans notre plan CRAC. Le fait d'avoir des gens qui viennent toujours à la rencontre des usagers. Le fait de dire, comme à un moment donné, on a proposé aussi d'avoir des mobiles, et ce que fait d'ailleurs le Portugal, c'est-à-dire des bus et vraiment une mobilité d'aller au plus près d'eux, parce qu'eux ne bougent pas. C'est pour ça que quand M. Majoubi propose de faire une salle de consommation sur le Champ de Mars, c'est absurde.
Professeur Florence Vorspan, parce que vous avez réclamé la parole et vous vouliez vous exprimer par rapport au suivi psychologique qui, selon vous, doit encadrer la lutte contre ce phénomène-là.
Alors, il y avait deux choses sur lesquelles je voulais réagir. D'abord, la notion d'obligation de soins par rapport aux soins psychiatriques sans consentement, puisque l'obligation de soins, ça peut être prononcé par un juge après n'importe quel délit lié à l'usage de drogue, mais la difficulté des patients qui sont dépendants du crack et qui sont sur l'espace public, c'est qu'ils ont des troubles psychiatriques avec des troubles du comportement qui sont motivés par des hallucinations ou des phénomènes délirants qui les rendent effectivement dangereux, mais qu'ils ne rentrent pas forcément dans le cadre que la loi autorise pour les hospitalisations psychiatriques sans consentement, puisqu'en fait leurs troubles sont très brefs. Et quelques heures après être passées dans des urgences psychiatriques, éventuellement même amenées par la police dans des urgences psychiatriques, le trouble a disparu et on n'est pas dans la situation qui permet de faire des hospitalisations psychiatriques sans consentement. Et d'autre part, je voulais vous rappeler que aujourd'hui, un patient qui fréquente un centre de soins et qui demande un sevrage de cocaïne attend plusieurs semaines pour pouvoir entrer dans les soins. Parce que notre système de soins est saturé. Donc, il y avait hier, avant-hier, les assises de la santé mentale et de la psychiatrie où il y a quand même un contexte général de difficulté de maintenir des soins psychiatriques la addictologie est souvent dans ces soins psychiatriques, mais qui soient ouverts par manque de soignants. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des unités d'addictologie, par exemple, qui sont fermées à la PHP par manque de personnel infirmier. Et donc, on se dit que si effectivement on met l'addictologie et les soins psychiatriques comme étant une priorité nationale, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, nos directions hospitalières, les ARS, doivent se mettre autour de la table pour dire, ben voilà, on privilégie quand on n'a pas suffisamment d'infirmiers, que ben on maintienne des lits ouverts en addictologie parce qu'il y a ces besoins-là, et pas que quelques semaines pour le temps d'une épidémie, mais bien de façon prolongée dans les années qui viennent.
C'est un maillon de la chaîne, rapidement, hein, c'est un maillon de la chaîne pour vous essentiel qui manque aujourd'hui.
Les patients dépendants du crack, tels qu'on les voit, les plus visibles qui sont dans la rue, ils ont des problèmes médicaux très sérieux et ils ont des problèmes psychiatriques très sérieux. Donc, ils ont besoin de soins avec, à un moment donné, un passage hospitalier dans lequel il y a ces deux compétences.
Et on a bien compris, du coup, que la position qui émergeait ce soir était celle d'accompagner, finalement, pour mieux soigner et non pas réprimer. C'était la question que je posais au début de ce débat, accompagner ou réprimer. Merci beaucoup, professeur Florence Vorspan, professeur d'addictologie à l'Université de Paris, médecin hospitalier dans le département de psychiatrie et de médecine addictologique de l'hôpital Fernand Vidal, également à Paris. Merci, Marie-Geoffrey Roustide, sociologue, chercheur à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et merci à vous, Anne Souiris, adjointe à la maire de de Paris, chargée de toutes les questions relatives à la santé et aux relations avec l'APHP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Merci à Florence Ponce à la préparation, comme chaque soir, de ce débat. Laurent Philippot à la réalisation. Restez à l'écoute de RFI, c'est RFI Soir dans 30 secondes. La région Normandie. Vous...